Bonsoir, entrons dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, Rouen, comment garantir la transparence totale? Les débats qui ont couru tout l'été autour de la nocivité du plomb des toits de Notre-Dame n'étaient pas encore oubliés que l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen avait ranimé les suspicions vis-à-vis des discours rassurants des autorités. Alors que 5 ministres et le Premier ministre se sont rendus sur place pour rassurer les Rouennais sur la situation sanitaire de la ville, ces derniers envisagent un écart entre leur perception de la pollution et les déclarations officielles. Comment faire la transparence totale et absolue telle qu'elle a été promise par Édouard Philippe sur une information nécessairement technique et complexe sans ajouter à la confusion de l'après-catastrophe? C'est la question que nous allons poser à nos quatre invités. Thomas Leroux est historien au CNRS. Il est co-auteur avec François Jarige de La Contamination du Monde, une histoire des pollutions à l'âge industriel aux éditions du Seuil. Annie Thébaumoni est sociologue de la santé, directrice de recherche honoraire à l'INSERM. Elle est également présidente de l'association Henri Pezerra, ce qui a quelque chose à voir avec notre sujet, bien entendu, puisqu'Henri Pezerra était celui qui avait lancé les alertes autour de la question de l'amiante dans notre société. Alain Dorizon est avec nous. Il est ancien directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, mais il est aussi co-auteur du rapport sur l'incident de janvier 2013 à l'usine Lubrizol de Rouen. Et Lucille Schmitt est également avec nous. Elle est fondatrice de la Fabrique écologique, elle est membre du conseil de rédaction de la revue Esprit.
J'essaie de dire les choses le plus clairement possible, le plus précisément possible. Je ne suis pas le seul à les dire. Les services de l'État, l'ARS, un certain nombre d'experts et d'autorités le disent. Je sais que nous vivons à une époque où la parole publique est souvent mise en cause ou décrédibilisée. Ce n'est pas parce qu'elle est mise en cause ou décrédibilisée que je vais changer de doctrine. En la matière, nous allons faire la transparence totale. Et il n'y a qu'en faisant la transparence totale de l'ensemble des données, de l'ensemble des analyses qui sont à notre disposition, que nous pourrons dire à nos concitoyens ce qui s'est passé et les conséquences qu'emporte ce drame.
On l'a reconnu, c'était le Premier ministre hier à Rouen qui parlait effectivement de cette transparence totale qu'il appelle de ses voeux, mais également des doutes qu'il peut y avoir vis-à-vis de la parole des politiques. Bonsoir Lucille Schmitt.
Bonsoir.
Vous-même, vous êtes militante politique, vous avez cofondé la Fabrique écologique et vous posez la question justement de la crédibilité de la parole politique dans la société contemporaine. C'est un bon exemple que cet exemple de Rouen.
Oui, c'est un exemple qui montre aussi que la crédibilité de la parole politique doit aujourd'hui intégrer de nouveaux contenus qui sont extrêmement compliqués à la fois à comprendre pour les citoyens et pour les hommes et les femmes politiques. Ce matin, j'écoutais le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui disait « je ne sais pas, je ne suis pas un scientifique ». Et ce qui est très intéressant dans ce qui se passe, c'est qu'on voit bien que quelque part, la culture administrative et politique n'a jamais intégré une culture générale scientifique et que du coup, on s'en remet aux scientifiques, mais en sacralisant ce que pourrait être le résultat des sciences, alors qu'on sait très bien que la science, on peut lui faire dire des choses différentes selon l'angle qu'on adopte. Et le sujet aujourd'hui n'est pas seulement la transparence, c'est le fait de le sentiment d'extrême confusion qui se dégage depuis jeudi dernier, depuis que ce nuage de fumée a modifié complètement, et cet incendie énorme, gigantesque, a modifié complètement la vie quotidienne, non pas seulement des Rouennais, mais de 200 communes en France, Hauts-de-France, Île-de-France, etc. C'est une catastrophe nationale et non pas régionale. Depuis ce moment-là, ce qu'on ressent, c'est que chacun, en fait, revendique la transparence, mais que le sujet, c'est qu'on n'a pas de procédure et de manière de faire par rapport à cette catastrophe industrielle, lorsqu'il s'agit à la fois de l'expliquer, de rassurer les citoyens et de la traiter dans le long terme.
Et pourquoi n'a-t-on pas de moyens, puisque tout compte fait, ça fait pas mal de temps qu'on connaît ce type de catastrophe industrielle, Annie Thébaumoni, et on peut pas remonter, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Thomas Leroux, au début du 19e siècle et au premier décret autour de ces questions-là, au début aux alentours de 1810, mais néanmoins, on a beaucoup d'exemples contemporains. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas trouvé le moyen de, justement, le canal pour aller depuis les autorités sanitaires et industrielles, le gouvernement jusqu'aux citoyens et retour?
Alors je crois que ce qui s'exprime à travers cette catastrophe, c'est cette contradiction récurrente entre une logique économique qui tend à faire des économies sur beaucoup de choses, sur la maintenance. On n'a pas encore les causes de cette catastrophe, mais si on s'en réfère à la plus emblématique en France, qui est celle d'AZF, on a bien vu que ce qui était en cause, c'est un problème de gestion, c'est un problème d'organisation du travail. Et puis, en fait, la logique de santé publique dans tout ça est bien souvent laissée pour compte. On le voit, on l'a vu à Notre-Dame. Je voudrais faire référence au papier de Mediapart d'hier montrant que une entreprise avait proposé un confinement total, comme nous le demandons avec un certain nombre de syndicats et d'associations. Et ce confinement a été...
En raison du plomb.
Qui est tout autour de Notre-Dame. Et cette solution a été jugée trop onéreuse par le ministère de la Culture.
Alain Dorizon, vous avez passé votre vie professionnelle en tant qu'ancien directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement à aller contrôler ce type d'installation. Et en particulier, vous avez été en Normandie et donc vous avez connu ce type d'installation le long de la Seine, un endroit très privilégié pour avoir installé depuis très longtemps maintenant des installations industrielles. Vous avez également été co-auteur du rapport sur un incident de janvier 2013 autour de cette même usine Lubrizol. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette question de confusion, d'incapacité de savoir ou de transmettre justement ce qu'il en est réellement des informations autour d'un cas comme celui-ci?
D'abord, je crois qu'il y a une difficulté fondamentale qui est d'expliquer à la population qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de toxicité aiguë.
Mais qu'est-ce qu'on appelle une toxicité aiguë? La toxicité aiguë, c'est quand on tombe comme des mouches.
En gros, la toxicité aiguë, c'est vous respirez le produit, vous êtes instantanément au minimum malade.
Bon. Ouais.
Après, vous avez la toxicité chronique. C'est sur le plus long terme. Bon. Et donc, on doit expliquer aux gens que d'un côté, il n'y a pas de toxicité aiguë, donc il n'y a pas de risque immédiat grave pour la santé. Et d'un autre côté, vous avez les personnes qui ressentent, et on peut comprendre leur inquiétude, des malaises. Hein, des malaises divers, ça sent mauvais, vous toussez, etc. Donc je crois que là, il y a quand même une difficulté tout à fait importante. C'est ce que nous avions pointé dans notre rapport.
C'est ce que j'appelle l'écart entre la perception de la pollution et les déclarations officielles, en l'occurrence, au minimum.
Et ses conséquences. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point, c'est que l'action administrative, pendant longtemps, sur les usines de ce type, c'est quand même concentré sur ce que j'appellerais le très gros risque. C'est-à-dire, dans le cas de Lubrizol, par exemple, il y avait des stockages de chlore. Bon, c'est clair que si un stockage de chlore explose, ça pose des problèmes extrêmement graves. Donc, l'action administrative, et d'ailleurs l'organisation, s'était concentrée sur le gros risque et sur ce que j'appellerais le moyen risque. Il reste encore à trouver la façon de travailler.
Et là, vous appelez ça un moyen risque, en l'occurrence, en tant qu'inspecteur, ancien inspecteur.
J'appelle ça un moyen risque.
On se concentrait
surtout sur le risque majeur.
Thomas Leroux, vous êtes historien et vous êtes co-auteur avec François Jarige de La Contamination du Monde, un livre exceptionnel qui est paru maintenant il y a 2 ans aux éditions du Seuil, dont le sous-titre est « Une histoire des pollutions à l'âge industriel ». Vous avez travaillé avec François Jarige sur ces questions à la fois de la mise en place de ces usines dans nos sociétés, mais aussi du regard porté par l'administration sur l'installation de ces usines, par les populations, et des changements progressifs de regard portés par les uns et par les autres sur la nocivité de ces usines à l'intérieur de nos propres sociétés. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce que vous expliquez d'ailleurs dans l'article du Monde, la Tribune du Monde que vous avez publié cet après-midi?
En fait, la gestion de crise actuelle, elle est assez conforme à ce que l'on peut constater historiquement. On a des populations alentour qui sont très inquiètes et c'est fort légitime. Elles sont d'ailleurs parfois inquiètes lorsqu'il n'y a pas d'accident parce que
pourrait y avoir un accident.
Oui, puis il existe une pollution chronique et des autorités qui essaient dans un contexte d'incertitude, il faut le dire aussi, que les produits qui se dégagent, on ne sait pas exactement quelle quantité et quelle réaction ça provoque, qui essaient de rassurer pour éviter des paniques. Mais le cadre réglementaire actuel, il a une part d'efficacité, une part d'inefficacité, mais il n'est pas fait en fait pour provoquer un débat public. Il n'est pas
conçu pour ça.
Il n'est pas du tout conçu pour ça. C'est une approche administrative et technique de gestion du risque. Si pour chaque installation, il fallait instaurer un débat public, c'est sans doute souhaitable ou c'est légitime de se poser la question, mais ça entraînerait des débats gigantesques, en fait. Sur la balance entre l'industrie et la défense de l'environnement, et ça pourrait aller très très loin.
Avec un paradoxe, c'est qu'on regrette tous, enfin en tout cas beaucoup de nos dirigeants, mais également des élus, regrettent la désindustrialisation de la France depuis maintenant une vingtaine d'années, Lucille Schmitt, mais cette réindustrialisation qui est appelée parfois par les vœux des élus en particulier, ne pourrait pas véritablement voir le jour parce que beaucoup de ces industries seraient tellement polluantes qu'on préfère les voir en Chine ou en Inde que les voir chez nous.
En fait, ce qui est très intéressant, c'est que la chimie, l'industrie chimique est sur la sellette. On l'a vu à propos de Bayer-Monsanto, on le voit sur la question des perturbateurs endocriniens. Et à travers cet accident industriel, on réalise qu'en fait, nous avons coexisté avec une industrie chimique qui potentiellement, c'était un risque moyen, mais ça peut avoir des conséquences pas moyennes.
Pendant deux siècles.
Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que le gouvernement vient d'alléger l'année dernière, en fait, les procédures en fait qui permettent, par exemple, d'augmenter les stockages. Ça a été révélé par un article il y a 48 heures, d'augmenter les capacités de stockage en fait, de ces usines à risque, sachant qu'il y a deux classements Céveso, Céveso haut et Céveso bas. Et que donc, ce qui se passe, c'est qu'on découvre aussi à travers la carte qui a été rendue publique. Moi, je ne connaissais pas cette carte. Avant, elle n'était pas, je dirais, dans le débat public. On découvre qu'il y a donc 1300 installations Céveso, donc avec plus de Céveso haut que de bas en France. Et donc, notre territoire est truffé d'installations dangereuses, parfois très concentrées. C'est-à-dire que la Seine et la vallée du Rhône, c'est les lieux où sont concentrés le risque. Et cette question de la géographie du risque moyen ou haut, c'est aussi un sujet pour les habitants, parce qu'ils s'aperçoivent que tout le monde en France n'est pas à égalité par rapport à cette question du risque.
Alain Dorizon, sur ces questions, puisque effectivement, nous avons des poches qui sont du côté de Fos-sur-Mer, par exemple, le long de la vallée du Rhône, comme on vient de le dire, du côté du Havre, de la vallée de la Seine, etc. Et à Dunkerque, qui sont des poches industrielles, qui restent encore des grands bassins industriels, dans lesquels il y a beaucoup d'emplois qui sont en jeu. Donc j'imagine que c'est un peu complexe de faire la part entre la nécessité de continuer à développer ces industries et en même temps la nécessité de protéger les habitants qui sont autour.
Plusieurs points là-dessus. D'abord, je voudrais rebondir sur ce que disait M. Leroux tout à l'heure. Moi, je crois qu'on peut susciter le débat autour des questions des industries à risque et qu'on doit le faire.
Oui, parce qu'on voit bien que de toute façon, les citoyens ont vraiment besoin
de... Oui, et l'administration en a besoin aussi. Je pense que les industriels aussi. Je crois qu'il y a besoin de pression sociale pour faire avancer les choses et faire avancer la protection de l'environnement. Et de ce point de vue-là, on a absolument besoin...
C'est bien d'entendre ça de la part d'un ancien ingénieur des mines.
Non, on a vraiment besoin d'une opinion publique exigeante et éclairée. Il n'y a pas de sécurité industrielle sans démocratie. Ça me paraît très clair. Et on peut susciter le débat. Alors, il y a des débats lors des installations, des autorisations, il y a les enquêtes publiques. Dans les zones à très forte industrialisation dont vous parlez tout à l'heure, il y a des institutions qui s'appellent les S3PI, un secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles, où précisément, on débat entre les industriels, l'administration et les milieux associatifs. Donc, on peut débattre.
Oui, Annie Thébaud-Mauny.
Alors, moi, je voudrais venir sur deux points qui sont clairement la question de la santé. Premier point, c'est tout ce qui s'est passé...
Je rappelle que vous êtes sociologue de la santé.
Absolument. Et sur les questions de risque professionnel en particulier. Et c'est justement de ça dont je voudrais parler, c'est que on assiste depuis 10 ans à une dérégulation terrible sur le plan du droit du travail et notamment sur la capacité des travailleurs d'intervenir sur des sites industriels et sur les dangers de ces sites industriels.
Vous voulez dire que les demandes, par exemple, des syndicats qui pouvaient remonter auparavant vers les directions ou vers le gouvernement ou vers les autorités administratives sont moins écoutées aujourd'hui ?
Je veux aller beaucoup plus loin. La suppression des CHSCT, des comités d'hygiène et sécurité. Conditions de travail, c'est la disparition d'un contre-pouvoir qui avait pour objectif la protection de la santé des travailleurs. Et en fait, la disparition de ces CHSCT, c'est absolument catastrophique. Et le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est l'impunité des industriels, des employeurs par rapport aux risques sanitaires, c'est-à-dire que ils ont toute impunité pour ne pas respecter les réglementations.
Vous aviez rendu un rapport à Alain d'Orizon sur ces questions à propos de cet incident de janvier 2013 qui mettait en cause du mercaptan, c'est ça, dans l'usine Lubrizol de Rouen.
Oui.
Qu'est-ce qu'il en a été après la remise de ce rapport, des condamnations ou des recommandations faites aux industriels de Lubrizol ensuite?
Alors, sur Lubrizol lui-même, je crois qu'ils ont été condamnés à 4000 euros d'amende. Hein. Oui. Je suis savant parce que j'ai vu ça dans la tribune de Monsieur Leroux. Bon. Donc, il y a des condamnations pénales.
Je crois que 4000 euros d'amende oui, pour oui, un groupe comme Lubrizol, c'est pas énorme.
Bon, c'est pas énorme. Ceci étant, quand même, la réglementation a évolué puisque maintenant il y a la possibilité, outre le système judiciaire, de procéder à des amendes administratives avec des astreintes, etc. Et ça, c'est efficace.
Oui, Thomas Leroux.
Oui, je pense que là, il y a deux points qui sont importants. C'est la question du débat public. Sur quoi doit porter le débat public? Est-ce que c'est sur des questions de périmètre de sécurité, des questions de volume, de stock, etc.? Ou est-ce que c'est sur la question de l'utilité sociale, en fait, de ce qui est produit? Ça, c'est un débat très important parce que ces additifs dans les lubrifiants et dans les essences, est-ce qu'on en a vraiment besoin? On parle d'emploi, par exemple, mais en fait, le ratio de personnes employées par rapport au chiffre d'affaires de ce type d'entreprise, il est très faible. On pourrait dire, produisons autre chose et ça créera beaucoup plus d'emplois que ce qui est produit actuellement par cette industrie chimique.
Donc ça, c'est. Vous voulez dire qu'on est d'une certaine façon un peu intoxiqué intellectuellement par l'idée que usine égale beaucoup d'emplois et donc un bassin d'emplois qui permet de vivre à une ville.
En fait, c'est une espèce de boîte noire où on assimile automatiquement activité économique à prospérité et à emploi. Mais en fait, cette activité économique, ça dépend d'une organisation sociale. Ça pourrait être aussi faire part d'un débat public et d'une délibération, en fait. Quelle est l'industrie réellement utile? Qu'est-ce que ça génère comme type de travail? Et pour quel type de salariés? Et quel produit, en fait, ça... Et en fait, quand on regarde cette industrie chimique, qui est d'ailleurs très importante en France, hein, l'industrie chimique, elle est excédentaire, elle exporte beaucoup, mais elle emploie finalement assez peu de salariés par rapport à d'autres types d'activités.
Ce que vous proposez, c'est une sorte de contrôle citoyen, justement, sur...
Si on instaure un débat public et qu'on veut une totale transparence, pourquoi on mettrait pas sur la table cette question de l'industrie et de quel type d'industrie? En fait, c'est la question de l'organisation économique.
Et le deuxième point, vous disiez?
Le deuxième point, c'était par rapport à la pénalité, en fait, et qui avait été justement évoquée. C'est que le cadre réglementaire en fait qui existe, c'est vrai qu'il permet de punir les industriels en cours correctionnel par exemple, mais en fait c'est extrêmement limité dans toute la gamme des recours possibles et le cadre réglementaire est fait pour éviter au maximum ce recours.
C'est ce que vous expliquez avec François Jarige dans La Contamination du Monde, c'est que depuis le début de l'installation industrielle en France au 19e siècle, eh bien, il y a toujours eu une sorte de protection justement de cette industrie parce que on voulait privilégier justement le développement économique au risque qu'il pouvait susciter sur le territoire.
D'une certaine façon, on sait que ce type d'industrie est néfaste pour l'environnement et pour la santé. On délimite des seuils et des doses, mais on sait que c'est nocif. Donc à partir du moment où c'est nocif pour la santé publique, c'est passible de recours dans les juridictions pénales. Et le cadre réglementaire qui a été adopté, et d'ailleurs ça a été justifié en ce sens, était là pour en fait consolider le capital industriel, lui permettre de fonctionner. Si ce n'avait pas été le cas, en fait, il y aurait des recours sans cesse et les industriels auraient été considérés comme des délinquants.
Lucille Schmitt et Annie Thébaud-Mauny.
Oui, trois petites choses. D'abord, par rapport à ce qui vient d'être dit, on a deux villes, Grigny et Ris-Orangis, qui aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, ont dit qu'elles souhaitaient le départ d'Antargaz, une installation en fait extrêmement dangereuse. Je ne sais plus si c'est classé Céveso haut ou bas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a des collectivités locales qui n'hésitent pas à dire, compte tenu des risques d'accident et compte tenu en fait du fait qu'on veut protéger les citoyens, on souhaite le départ de certaines installations.
Mais on a des collectivités locales qui ne veulent pas de pesticides sur leur commune et néanmoins les préfets empêchent que ça se fasse.
Ce qui est intéressant dans ce que disait Thomas Leroux, c'est qu'on voit bien qu'il y a quelque chose autour de distinguer le citoyen du salarié, c'est plus possible de la même manière. Aujourd'hui, ça se voit dans de très nombreuses entreprises. Et on voit bien que la Lubrizol, par exemple, explique que nos salariés, nos employés ont été remarquables, merci de leur solidarité. Moi, j'aimerais les entendre en toute neutralité et je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Je voulais revenir très rapidement sur la question de la responsabilité de l'entreprise. Moi, je trouve que depuis le début, on n'évoque pas la responsabilité de Lubrizol, qui, de son côté, a porté plainte contre X en termes d'intrusion ou d'accident involontaire et qui a suggéré que c'était un accident en fait volontaire. Il y a un vrai sujet s'il y avait trop de produits stockés. Donc le sujet pour nous, c'est aussi d'examiner la responsabilité de l'État, certes, mais aussi de l'entreprise. Il ne faut pas dédouaner trop vite l'entreprise, et notamment lorsqu'il s'agit d'indemniser. Moi, je considère que c'est bien d'indemniser, évidemment, les agriculteurs, que ce soit le contribuable qu'il fasse, ok, mais le sujet de l'indemnisation par l'entreprise peut aussi se poser en fonction des responsabilités. Et un dernier point, pardon. Ouais. C'est juste de dire une chose, c'est que la justice, dans ce cas précis, va être la garante, évidemment, démocratique de ce qui est en train de se passer.
Anita Beaumoni.
Alors, un point sur l'aspect économique des choses, c'est que c'est quand même une vue à très court terme de considérer que le développement économique qui fait tant de dégâts ne doit pas être considéré du point de vue justement de ces dégâts. Et on a quand même des chiffres aujourd'hui sur les cancers liés au travail en Europe. On a entre 100 et 150 000 décès par an en Europe dus au cancer du travail. En France, on a 3 000 décès liés à l'amiante. Et je voudrais évoquer l'aspect économique, purement économique. En Europe, il y a un organisme, l'Institut syndical sur les conditions de travail auprès de la Confédération européenne des syndicats, qui a fait faire une étude par des économistes et qui estime que le coût des cancers du travail, c'est entre 200 et 600 milliards par an. Ce qui veut dire que là, on a un déficit absolument énorme du point de vue de la collectivité.
Est-ce que ça n'est pas une des questions à poser à Alain d'Horizon face à un cas comme celui-ci, que de réfléchir à la fois en termes de santé d'un côté, de risque industriel de l'autre et d'environnement? C'est-à-dire, est-ce que la structuration de nos contrôles, par exemple, ne font pas qu'il y a des sortes de murs entre chacune de ces administrations qui sont à la fois garantes de la santé des citoyens, garantes du risque industriel et de le plus minime possible, et de l'autre côté, garantes de la qualité de l'environnement dans lequel nous vivons?
Effectivement, les administrations se parlent.
On l'espère, on le sait, oui.
Et notamment, en gros, vous avez deux administrations qui sont en charge de ces questions. Il y a d'une part l'EDREAL, hein, pour ce qui est de l'inspection des installations classées, qui regarde l'impact environnemental. Et puis il y a l'ARS, hein, et qui regarde les impacts sur la santé. Et c'est très clair que le domaine de l'environnement, des pollutions et le domaine de la santé se recouvrent. Et donc, il est tout à fait indispensable que les administrations travaillent, et elles le font, au niveau d'abord des procédures d'autorisation, et ensuite, lorsqu'il s'agit de gérer des crises, et on le voit clairement sur l'affaire de la crise de Rouen.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Un temps du débat consacré ce soir à la question de la garantie de la transparence totale sur l'affaire de Rouen, l'affaire de l'usine Lubrizol, telle que l'a promise, dont cette transparence totale, telle que l'a promise le Premier ministre. Nous sommes avec Anita Beaumoni, sociologue de la santé, directeur de recherche honoraire à l'INSERM, avec Alain d'Horizon, ancien directeur régional de l'industrie et de la recherche et de l'environnement, et co-auteur du rapport sur l'incident de janvier 2013 à l'usine Lubrizol de Rouen, avec Lucille Schmitt, qui est cofondatrice de la Fabrique écologique et membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Avec vous, Tolma Leroux, vous êtes historien et co-auteur de La contamination du monde. On veut la vérité, crient les gens à Rouen. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'il y a ce doute sur cette vérité, alors que les autorités publient tous les jours, et nous les avons jointes, ces autorités, aussi bien l'ARS que la préfecture de Seine-Maritime, publient tous les jours les résultats au fur et à mesure qu'ils avancent, qu'au bout du compte, ils ont promis la transparence totale. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce doute qui se maintient encore vis-à-vis de la possibilité ou non d'avoir la vérité sur cette question?
Il y a un contexte général qui est celui de la défiance de la parole publique. Ça a été rappelé par le Premier ministre, c'est vrai. Mais sur ce point précis, il y a des précédents historiques aussi. On pense au nuage de Tchernobyl qui s'arrêtait à la frontière entre l'Allemagne et la France. Et c'est désastreux, évidemment, parce que qui croire quand, effectivement, on voit après, plusieurs mois et plusieurs années après, que c'est...
Se développent des cancers, par exemple.
Ce n'est pas le cas. Donc, il y a forcément une suspicion. Et puis, les populations environnantes qui subissent ce nuage toxique ressentent bien les effets. Ils voient bien la suie qui se dépose un petit peu partout. Ils sont incommodés.
Mais en même temps, il y a des fabricants de fake news qui sont apparus immédiatement, comme c'est le cas à chaque fois, qui ont publié des faux communiqués, qui ont tenté de mettre les internautes en défaut en leur proposant des solutions ou des fausses solutions vis-à-vis de ce qui s'était passé, par exemple.
Oui, bah alors après les réseaux sociaux, peut-être qu'ils amplifient en fait ce phénomène de défiance, mais les riverains et la population en général a extrêmement besoin d'être informés précisément sur ce qui se passe. Mais je pense qu'il y a aussi un flou de la parole politique. Par exemple, quand on entend notre ministre de la Transition écologique parler du fait qu'il n'y a pas de polluants anormaux. C'est ça pose question.
Et ne serait-ce que le fait de la toxicité aiguë, dont personne ne sait ce que ça signifie.
Oui,
on vient de nous expliquer.
La question de polluants anormaux, elle pose question, parce qu'en fait, c'est une ministre en charge de l'environnement. Ça voudrait dire que les polluants normaux, ils peuvent continuer. Enfin, voilà. Et donc, ça entretient une espèce de confusion.
Annie Thébault-Morny.
Alors, en fait, sur cette histoire de doute. Sur le cas précis, il est certain que si le préfet avait immédiatement rendu public les produits qui sont dans ces stockages...
On les sait, il est en conférence de presse pour les annoncer ce soir.
Mais on est combien de temps après ?
Cinq jours.
Bon. Et qu'il y a eu un travail de fait pour que cette annonce, effectivement, soit faite... tout en expliquant aux personnes ce qui doit être fait, quelle protection par rapport aux enfants, comment est-ce qu'on nettoie, etc., on n'en serait pas là aujourd'hui du point de vue de la méfiance. Et moi, je vais prendre alors quand même la fabrique...
Il vient d'annoncer le préfet qu'il y avait 1000 fûts, dont 160 en état délicat, pour lesquels un protocole d'intervention est en cours de finalisation, dit-il, à propos de ce qu'il reste encore de l'usine Lubrizol de Rouen.
Mais alors, est-ce que on va enfin savoir ce qu'il y a dans cette usine ? Quand on va sur le protocole des installations classées, il y a 4 types d'hydrocarbures qui sont cités, mais aucun autre produit. Et ça, c'est pas acceptable, puisqu'il y a la convention d'Aarhus, qui est une convention européenne, qui nous donne le droit d'avoir l'information sur tout ce qui concerne la santé et l'environnement. Et
il a précisé, le préfet de Normandie, qu'il n'y avait pas de risque avéré lié à l'amiante dans l'air. Et voilà, en ce qui concerne l'amiante dans l'air, on est sur le bruit de fond des fibres d'amiante dans l'air d'un niveau extrêmement faible.
Là-dessus, je voudrais intervenir sur l'amiante, parce que j'ai eu, juste dans le taxi qui m'a amené ici, un journaliste qui avait rencontrer des riverains qui ont des débris d'amiante dans leur jardin. Et c'est à 2 km de l'entreprise.
Alain d'Horizon, vous qui avez inspecté avec d'autres cette usine en janvier 2013 à propos d'un autre incident industriel, qu'est-ce qu'on peut savoir de ce qu'il y a dans cette usine et pourquoi est-ce qu'on attend autant de temps pour pouvoir savoir ce qu'il y avait dans cette usine ?
Alors, d'abord, moi je reviendrai sur la question du doute. Je crois que c'est un phénomène...
Ce n'est pas le doute méthodologique des scientifiques, c'est ça ?
Le doute de la parole publique, il est totalement présent dans notre société, il est de plus en plus important, et d'ailleurs, à mon avis, c'est un grave problème, un problème démocratique, mais on irait un peu loin du sujet, et ça couvre tous les domaines, hein, aussi bien le domaine de la santé que le domaine de
la politique, de tout à fait.
Rien n'y échappe. Alors, sur la transparence, je crois qu'il y a une difficulté qui est de... qu'on parle de choses compliquées et pour lesquelles il faut de la médiation. Alors, je reprendrai ce que disait madame à l'instant. On va avoir la liste des produits chimiques qui sont chez Lubrizol. Vous allez avoir une liste de 400 produits chimiques.
C'est 400 ?
C'est, à mon avis, c'est l'ordre de grandeur.
Ouais.
Vous allez bien avancer avec ça. Il faut comprendre, il faut le traduire, il faut être capable de l'expliquer. Alors, vous avez la parole officielle qui l'explique. Hein, et il serait bien qu'il puisse aussi y avoir une parole
citoyenne, hein, qui puisse, avec des associations,
qui puissent s'expliquer là-dessus. Premièrement, deuxièmement, il y a effectivement la convention de Varus. Vous avez parfaitement raison, madame. Et dans la demande d'autorisation pour ce genre d'installation, on doit fournir la liste des produits. Simplement, il y a une clause. Alors, je ne sais pas du tout si c'est ce qui justifie le retard du préfet. Je ne porterai pas de jugement là-dessus, mais la convention d'Aarhus prévoit quand même un certain nombre d'exceptions. Il y en a 5 de mémoire, dont 2 là qui peuvent être directement applicables. La première, c'est le secret des fabrications, et le deuxième, c'est les questions de sécurité. C'est pas forcément la peine d'aller dire aux terroristes là, ils pourront aller trouver tel produit.
Lucille Schmitt.
Oui, moi je voulais rebondir sur cette question du débat et de la médiation. Il me semble que depuis le début, on voit bien que l'articulation entre démocratie et écologie, démocratie et risque industriel, aujourd'hui elle se trouve pas dans les institutions et dans la manière de faire aussi, je dirais dans l'éducation des hauts fonctionnaires. C'est-à-dire qu'on voit bien
vous
que...
Vous êtes vous-même haut fonctionnaire.
Ce que je trouve intéressant, c'est que par exemple le préfet a été mis en cause à plusieurs reprises, alors que je crois qu'il est de parfaitement bonne foi. Lorsqu'il a été confronté au maire, c'est-à-dire qu'il y avait une demande des citoyens d'assister à la réunion avec les maires avec l'idée que c'était un moment démocratique où on allait savoir les choses. Il a été choisi de faire cette réunion à huis clos, mais le huis clos n'existe plus parce que de toute façon tout le monde met ça sur Twitter, Facebook et compagnie. Et donc organiser des huis clos factices qui créent en fait de la méfiance, c'est absurde. De la même manière qu'organiser le fait de ne pas dire les choses le jeudi pour le dire le mardi,
c'est... Oui, mais
toute une culture administrative qui est chamboulée, qui est bouleversée, qui est révolutionnée par les réseaux sociaux, pour le pire et le meilleur. Et je suis d'accord que les réseaux sociaux peuvent organiser la fake news, mais ils peuvent aussi organiser la démocratie. Et en ce sens, ce qui était très intéressant dans la réunion du préfet avec les maires, c'est que les maires lui reprochaient, par exemple, d'avoir une espèce de procédure, de routine, où ils étaient, entre guillemets, emmerdé sur l'histoire de la routine de procédure, sauf quand il y avait la vraie catastrophe, où là, il recevait un coup de fil à 5h de l'après-midi, alors que la catastrophe s'était produite à 7h du matin. Donc il y a un sujet sur une routinisation de procédure et le fait de ne pas alerter en fait les agents ou les médiateurs, puisque vous parliez de médiateurs qui sont ceux au contact des citoyens et qui disaient, mais comment se fait-il que ça ne se soit pas produit? Ça peut être l'effet de panique. Et la deuxième chose, pardon Emmanuel, mais la question qui a été abordée par madame sur la question du coût de l'inaction est aussi un truc fondamental, puisqu'aujourd'hui on vit à l'ère des économies sordides. La question du coût de l'inaction écologique et du coût de l'inaction en matière de santé est un vrai sujet. Ça a été posé par Nicolas Stern en 2006, on est en 2019, et aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on va vivre une crise qui va coûter des milliards. C'est ça le sujet.
L'AFP nous apprend que le parquet de Rouen se dessaisit au profit du pôle de santé publique du parquet de Paris à propos de l'affaire Lubrizol. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez l'analyser parce que moi je ne peux pas l'analyser.
Je vais vous dire ce que je... Tous les procès d'amiante sur le passif de l'amiante qui est énorme, 550 000 morts en 20 ans, a été porté au parquet, au pôle santé publique de Paris.
Celui donc où va porter l'affaire Lubrizol.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, des procès qui devaient porter sur les infractions qui avaient été commises dans ces usines à longueur de décennies ont été totalement écartés au profit d'un procès qui porte sur une expertise où le doute redevient une fois de plus, parce que c'est... Ce qui s'est passé, c'est que l'histoire de l'amiante a été remise entre les mains d'experts médicaux à qui on a posé, je dirais, de mauvaises questions. Est-ce qu'il fallait trouver la fibre qui a rendu malade? Est-ce qu'il fallait trouver l'époque où cette fibre avait été utilisée? Donc, le pôle de santé publique s'est enterré le problème de santé publique.
Thomas Leroux.
Oui, c'est extrêmement juste ce qui vient d'être dit. Et en ce qui concerne le doute aussi, par rapport à ces questions d'expertise et de produits, il y a un processus historique en fait qui a été mis en valeur et qui existe encore aujourd'hui. C'est la fabrication justement de ce doute, parce que sur les questions de produits nocifs, en fait, bon, il y a des expertises qui sont contradictoires et généralement les entreprises ont leur propre expertise. D'ailleurs, ils doivent apporter la preuve que leurs produits ne sont pas dangereux, etc. Mais il y a un processus qu'on appelle la fabrique du doute. Il y a l'expression les marchands de doute, en fait, qui sont en fait toutes ces expertises de laboratoires, soi-disant indépendants, mais en fait qui dépendent d'entreprises, pour montrer qu'en fait c'est très difficile de se prononcer sur la toxicité d'un produit, qu'il faut faire de plus amples recherches, qu'il faut continuer, qu'il faut mêler ça à d'autres types de facteurs. Et le résultat, c'est qu'on n'arrive plus plus à rien démêler, on se plonge dans les détails et on ne repart pas sur l'essentiel, qui est de savoir est-ce que ce type de produit, en fait, il est juste de le produire ou de le mettre en fabrication.
Alain d'Horizon, la chimie est particulière dans ce domaine, c'est-à-dire que lorsqu'il se passe un problème justement lié à la chimie, il va falloir aller chercher chacun des éléments que l'on recherche, c'est-à-dire on ne peut pas analyser une catastrophe comme celle-ci en disant on va scanner ce qui s'est passé, on va comprendre quels sont tous les éléments qui sont en cause.
D'abord sur la question d'expertise. En matière d'environnement, il y a de l'expertise publique. Il y a l'Institut national de l'environnement industriel et
d'Eris
qui existe, qui est une référence française et même une référence européenne. Ce qui est important, je pense, l'expertise, c'est d'avoir la pluralité d'expertise lorsque c'est possible. Et effectivement, alors je prends le cas des installations classées que je connais bien, il y a des études de danger, et lorsque l'administration a un doute sur l'étude de danger, elle peut solliciter un expert extérieur qui intervient aux frais de l'industriel, bien sûr, qui est concerné, ce qui permet de confronter les points de vue et d'affiner l'expertise.
C'est-à-dire que ce sont des questions tellement complexes qu'une seule expertise...
On préfère en avoir deux. On préfère en avoir deux, et j'ai personnellement, j'aurais pas le temps de le raconter, j'ai connu des cas où ça a été extrêmement utile, cette pluralité d'expertise. Sur la question très technique que vous posez, effectivement, une analyse chimique, c'est pas toujours simple. On dit souvent, quand on fait une analyse chimique, on trouve ce que l'on cherche. C'est-à-dire, il n'y a pas de machine où vous mettez quelques gouttes d'eau dans la pipette, vous la mettez dans la machine, vous appuyez sur le bouton, et ça vous sort ce qu'il y a dedans. Quand vous faites une analyse chimique, il faut rechercher des catégories particulières de produits,
les hydrocarbures
polycycliques, les métaux lourds, etc.
Oui, Lucille Schmitt et puis Annie Thébaumoni.
Oui, moi je pense que ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que donc il faut poser les bonnes questions. Et de ce fait, je pense que ce qui serait aussi très intéressant, c'est ce qu'a choisi de faire Corinne Lepage, avocate, ancienne ministre de l'Environnement, c'est que des contre-expertises puissent être réalisées. Elle dit qu'elle va travailler avec l'association Respire et des citoyens à partir d'échantillons que les citoyens auront collectés. Et donc ça permettra d'abord d'élargir le périmètre où on mène l'échantillonnage. Et puis ça permettra peut-être aussi, à partir de ce qui sera fait, de rassurer les citoyens. C'est-à-dire que quand la parole publique est décrédibilisée, quand il y a un problème entre l'idée de l'expertise officielle et par exemple de dessaisir, enfin que le parquet se dessaisisse et de confier ça à certaines instances qui posent des difficultés en termes de réputation, je pense que c'est essentiel et c'est bon, y compris pour les autorités publiques, que ça fonctionne par le contre-pouvoir. Moi, c'est ça qui me semble essentiel, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'il s'agit d'écologie et d'environnement et de questions de santé, il faut organiser du contre-pouvoir de façon à ce que les paroles retrouvent leur crédibilité.
Annie Thébaumoni.
Alors, c'est justement des contre-pouvoirs que je voulais parler. Et dans la mesure où cette liste des produits n'a pas été
communiquée,
je dirais tous les experts qui travaillent avec les contre-pouvoirs ont été empêchés de donner des éléments sur les mécanismes de toxicité. Alors, on a un problème plus vaste qui est la disparition de la toxicologie industrielle indépendante dans des organismes comme le CNRS. Mais il reste quand même quelques toxicochimistes et ils forment une association qui est très très utile qui s'appelle l'association Toxicologie Chimie. Depuis 5 jours, ils attendent de pouvoir travailler avec l'expérience qu'ils ont sur ces produits pour pouvoir donner de l'information et une information scientifique, élaborée, rigoureuse, pour permettre aux citoyens, pour permettre aux travailleurs aussi de pouvoir se défendre.
Merci beaucoup. Un dernier mot, Thomas Leroux.
Oui, sur les expertises, en fait, on voit bien que dans beaucoup de cas historiques, y compris dans la période très récente, en fait, on a toujours eu des tentatives d'expertise, soit profane, soit de contre-pouvoir, etc. Et malheureusement, ce que l'on voit, c'est que c'est l'expertise du pouvoir, en fait, qui, enfin, faut regarder quel est le commanditaire, qui dans ces affaires a toujours prédominé, en fait, avec une forme de délégitimisation des autres expertises.
Ça n'est pas toujours le cas. On peut
Non, non, mais ça serait très heureux que l'expertise citoyenne soit réellement valorisée et quelles sont les conditions d'exister.
Et qu'un incident et un accident comme
aussi.
Celui-ci,
ça serait assez nouveau.
Ça serait assez nouveau et on l'appelle de nos voeux visiblement et tout le monde aussi autour de cette table l'appelle de ses voeux puisque Alain d'Horizon nous a dit aussi que c'était important d'avoir
d'autres... Dans le domaine du nucléaire, il y a quand même des associations qui ont de la compétence et qui ont des moyens.
Voilà. Et donc, évidemment, pour le risque chimique, c'est un peu différent. Merci à vous, Thomas Leroux. Je rappelle que vous êtes co-auteur de La contamination du monde au Seuil. Merci à vous, Anita Boumedine, d'être venue ici pour parler justement de ce cas de Lubrizol. Merci, Alain Dorizon, d'être venu porter la parole qui est la vôtre en tant qu'ancien directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ainsi qu'à Lucille Schmitt. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier et Louise André. À la technique aujourd'hui, Pascal Baudin. À la vidéo, Pierrick Monsignon. À la réalisation, Marie-Laure Ciboulet.